Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentrent pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant? Cet épisode a été écrit par Céline Schöpfer et Kenzo Nera. Céline est doctorante en philosophie à l'Université de Genève et Kenzo est chercheur postdoctoral à l'Université libre de Bruxelles. L'épisode vous est conté par Kenzo Nera. En réponse aux attentats de 2015 et à l'intégrisme religieux, François Hollande en appelait à la formation à la rationalité et à l'esprit critique. De même, en 2021, Emmanuel Macron a mandaté une commission d'experts et d'expertes dont les conclusions avaient pour but de promouvoir l'esprit critique contre les mouvements de désinformation sur Internet qui nourrissent, entre autres, les idéologies anti-vaccinales. Plusieurs problèmes donc, mais une seule et même solution, l'esprit critique. Pour beaucoup, l'esprit critique est le remède à bien des problèmes. Et certains travaux scientifiques le suggèrent. Des recherches ont mis en évidence que les personnes qui performent mieux à un test d'esprit critique croient moins aux théories du complot. Le test en question portait sur l'analyse d'un texte argumenté et la rédaction d'une réponse à ce texte. Par ailleurs, le fait de réfléchir de façon méthodique, en décomposant les problèmes, est associé à un meilleur discernement des informations vraies et fausses sur Internet. Par contre, se fier trop à ses intuitions et tirer des conclusions hâtives est associé à davantage de croyances complotistes. Ces travaux suggèrent que ce qu'on entend communément par esprit critique, comme la pensée méthodique ou le rejet des conclusions hâtives, constitue une piste prometteuse pour lutter contre les croyances problématiques. En somme, dirait-on, l'esprit critique, c'est vraiment super. Mais j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est au fond l'esprit critique ? Nous comprenons toutes et tous cette notion à notre manière, mais quand il s'agit de le définir de façon précise, les choses se corsent, y compris dans les milieux académiques. Si la réflexion autour de l'esprit critique est aussi ancienne que l'histoire de la philosophie, la première définition formelle de l'esprit critique, critical thinking en version originale, apparaît dans les années 1910. Le philosophe et psychologue John Dewey le définit comme, deux points ouvrez les guillemets, un examen actif, persistant et attentif de toute croyance ou forme supposée de connaissance, examen mené à la lumière des motifs qui soutiennent cette croyance et des conclusions auxquelles elle tend. C'est un effort conscient et volontaire pour établir la croyance sur une base solide de preuves et de rationalité. Ouf ! Tout un programme donc. Ensuite, dans les années 70 et 80, le courant de l'esprit critique a pris de l'ampleur en philosophie de l'éducation, en psychologie cognitive, mais aussi en sciences de l'argumentation et en management. Aujourd'hui, il existe tout un tas de formations à l'esprit critique et des tests visant à l'évaluer. Pourtant, malgré toutes les recherches sur le sujet, nous ne disposons pas encore d'une définition de l'esprit critique qui mettrait tout le monde d'accord. Et pour cause, chaque chercheur, chaque chercheuse amène sa pierre à l'édifice en apportant une nouvelle définition, sans vraiment préciser ce qui ne fonctionnait pas avec les précédentes et ce que la sienne apporte en plus. À titre d'exemple, Céline Schöpfer, première autrice de cet épisode, a recensé dans le cadre de sa thèse plus d'une vingtaine de définitions issues de la littérature spécialisée. Ce manque de clarté sur ce qu'est l'esprit critique a pour conséquence que, dans le grand public, chacun et chacune y va de sa propre définition. Ces définitions sont parfois approximatives, parfois carrément fausses. Par exemple, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux des personnes qui défendent des théories alternatives, voire franchement conspirationnistes, se revendiquer penseurs et penseuses critiques. Ces personnes sont persuadées de faire preuve d'esprit critique. Elles pensent différemment du reste de la société, elles font leurs propres recherches, elles pensent par elles-mêmes. Or, s'il est évident qu'une dose de scepticisme vis-à-vis des paroles d'autorité est nécessaire pour faire preuve d'esprit critique, estimer qu'on peut penser tout seul, par soi-même, c'est un leurre. C'est une posture qui révèle une mécompréhension de ce qu'est l'esprit critique, qu'on appelle l'individualisme épistémique. Épistémique, c'est un adjectif compliqué pour désigner ce qui renvoie à la connaissance. L'individualisme épistémique peut se résumer en une phrase. Je devrais tout vérifier par moi-même pour développer des connaissances, car je ne peux en aucune circonstance me fier au témoignage d'autrui. Le problème avec cette posture, c'est que l'immense majorité de nos connaissances provient d'autrui, y compris certains éléments de notre propre vie. Pensez par exemple à votre date ou votre lieu de naissance. Les raisons qui font que l'on ne peut pas être pleinement autonome sur tous les sujets sont multiples. On peut mentionner tout simplement le manque de temps, ou l'inaccessibilité de certains domaines qui demandent une formation très pointue, par exemple en mathématiques. Il faut donc accepter que nous sommes novices dans de très nombreux domaines. En conséquence, nous devons accepter de croire sans savoir, et accepter aussi le fait que l'on dépend des autres pour connaître le monde. Cette mauvaise compréhension de l'esprit critique peut peut-être expliquer pourquoi les personnes complotistes considèrent qu'elles font preuve de davantage d'esprit critique que le reste de la population. En fait, le penseur, la penseuse critique, ce n'est pas celle qui pense toute seule, c'est celle qui sait discerner ce qui constitue ou non une source d'information fiable. En effet, si les auteurs et autrices ne parviennent pas à un consensus quant à la définition de l'esprit critique, il existe quand même certains points d'accord. Par exemple, il est communément admis que l'esprit critique est constitué de certaines compétences cognitives, la capacité à clarifier des énoncés, à analyser des arguments, évaluer des sources, émettre des hypothèses, etc. Mais l'esprit critique, c'est aussi certaines attitudes, par exemple l'ouverture d'esprit, la curiosité ou l'humilité intellectuelle. Enfin, l'esprit critique repose sur un certain nombre de connaissances. Des connaissances propres au sujet que l'on souhaite critiquer, mais aussi certaines connaissances sur la façon dont se construisent les connaissances. On parle d'épistémologie. Ça inclut aussi des connaissances sur le fonctionnement des médias ou sur le fonctionnement de notre propre cognition. L'esprit critique, c'est donc cet ensemble de compétences cognitives, d'attitudes et de connaissances qui guident la décision quant à ce que l'on accepte de croire ou non, quant à ce qu'on accepte de faire ou non. C'est donc un concept très vaste. Ça explique peut-être pourquoi, dans la littérature scientifique sur la psychologie des fausses croyances, on parle finalement relativement peu d'esprit critique, même si de nombreux concepts s'en rapprochent, comme la pensée analytique, l'humilité intellectuelle ou la sensibilité métacognitive, qui désigne la capacité à évaluer de façon critique son propre niveau de connaissance. On trouve dans ces concepts un écho aux différentes dimensions de l'esprit critique que nous venons d'évoquer. Mais l'esprit critique en tant que tel reste un objet vaste et par certains aspects ambigu. Il est à la fois présenté comme un remède à la prolifération des fausses croyances et revendiqué par les tenants des croyances en question. Souvent, ce genre d'ambiguïté dans la compréhension des mots peut être résolu en se référant aux travaux scientifiques. Mais ce n'est pas le cas pour l'esprit critique. Tout au plus, on sait ce que l'esprit critique n'est pas. Quoi qu'il en soit, si on souhaite promouvoir et enseigner l'esprit critique, il faut au préalable définir clairement ce dont on parle, faute de quoi on pourrait bien faire pire que mieux. Car pour reprendre l'expression de la philosophe Jennifer Mullnix, comment viser dans le mille si on ne voit même pas la cible sur laquelle on tire? Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Céline Schöpfer, doctorante en philosophie à l'Université de Genève, et Kenzo Nera, chercheur postdoctoral à l'Université libre de Bruxelles. L'épisode a été relu par Magali Bella et Olivier Klein. Il vous était conté par Kenzo Nera. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants. N'hésitez pas à consulter notre site pilgram.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou SoundCloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et X. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aide énormément.